roi. Peu après minuit, à peu près au moment où le dernier membre de la famille Peterson apprenait à réaliser un nœud coulant grâce à Wikipédia, Marcy Maitland fut réveillée par des hurlements provenant de la chambre de sa fille aînée. Grace commença. Une mère ne se trompe jamais, mais Sarah se joignit à sa sœur pour former un terrible duo. C'était la première nuit que les filles ne passaient pas dans la chambre que Marcy avait partagée avec Terry. Mais évidemment, elles voulaient continuer à dormir ensemble, et Marcy songeait que cela risquait de durer un bon moment, et elle n'y voyait pas d'inconvénient. Ces hurlements, en revanche. Marcy n'avait pas le souvenir d'avoir couru jusqu'à la chambre de Sarah. Elle se souvenait uniquement de s'être levée pour se retrouver sur le seuil de la porte ouverte, face à ses filles assises dans le lit, accrochées l'une à l'autre, éclairées par la pleine lune de juillet que laissait entrer la fenêtre. « Qui est-il ? » demanda-t-elle, cherchant du regard un intrus. Elle crut tout d'abord que l'homme, car c'était forcément un homme, se tenait accroupi dans le coin. Mais il s'agissait d'un amas de pulls, de t-shirts et de baskets.
C'est à cause d'elle !
S'écria Sarah.
C'est Grace ! Elle m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un. Oh bon sang, maman, elle m'a fichu la frousse !
Marcy s'assit au bord du lit. Elle sépara les deux sœurs et prit Grace dans ses bras. La fillette continua à jeter des regards affolés autour d'elle. L'intrus se cachait-il dans la penderie ? Possible. La porte en accordéon était fermée. Il avait pu s'y réfugier en l'entendant venir. Ou sous le lit. Toutes ces terreurs enfantines la submergèrent, tandis qu'elle s'attendait à sentir une main se refermer autour de sa cheville, l'autre tenant un couteau.
Grace, Gracie, qui as-tu vu? Où était-il?
Grace pleurait trop pour pouvoir répondre, mais elle montra la fenêtre. Marcy s'en approcha, ses genoux menaçant de se dérober à chaque pas. La police surveillait-elle toujours la maison? Oui, avait dit que des agents passeraient régulièrement devant, mais ils n'étaient plus là en permanence et de toute façon, la fenêtre de la chambre de Sarah, comme toutes les fenêtres de toutes les chambres, donnait sur le jardin de derrière ou sur la petite bande de terrain sur le côté, entre leur maison et celle des Gunderson. Et les Gunderson étaient en vacances. La fenêtre était fermée, et le jardin, dont chaque brin d'herbe semblait projeter une ombre au clair de lune, désert. Marcy revint s'asseoir sur le lit et caressa les cheveux de Grace, mouillés et emmêlés par la sueur.
« Et toi, Sarah, tu as fait quelque chose ?»«
Je... »
Sarah réfléchit. Elle tenait toujours la main de sa sœur qui sanglotait contre son épaule.
« Non, j'ai cru, pendant une seconde, mais uniquement parce qu'elle hurlait « Il y a un homme ! Il y a un homme !» En fait, il n'y avait personne. »
Elle s'adressa à sa cadette.
« Il n'y avait personne, Gracie, je t'assure. »«
Tu as fait un mauvais rêve, ma chérie, » dit Marcy, en songeant. « Sans doute le premier d'une longue série. »«
Non, il était là !»
murmura Grace.
« Dans ce cas, il s'est volé, »
rétorqua Sarah, en faisant preuve d'une étonnante maturité pour une jeune fille qui venait d'être réveillée en sursaut quelques minutes plus tôt.
« Car je te signale qu'on est au premier étage. »«
Je m'en fiche, je l'ai vu !» Il avait des cheveux noirs, courts et dressés sur la tête, et un visage plein de bosses, comme de la pâte à modeler, et des pailles à la place des yeux.
Un cauchemar,
déclara Sarah d'un ton détaché, comme si cela mettait fin à la discussion.
Venez toutes les deux, dit Marcy en essayant d'adopter le même détachement. Vous allez finir la nuit avec moi.
Elles suivirent leur mère sans protester, et, 5 minutes plus tard, Marcy les avait installées dans son lit. Une de chaque côté. Grace, 10 ans, s'était déjà rendormie.
« Maman, » chuchota Sarah. « Quoi, ma chérie ? L'enterrement de papa me fait peur. Moi aussi. Je ne veux pas y aller. Et Gracie non plus. On est 3, trésor. Mais on ira quand même. On sera courageuse. C'est ce que votre père aurait voulu. Il me manque tellement. »
Marcy déposa un baiser sur la tempe de sa fille aînée, là où le pouls battait faiblement.
« Dors, ma chérie. »
Sarah finit par se rendormir, elle aussi. Marcy, elle, demeura éveillée entre ses deux filles, les yeux fixés au plafond. Elle pensait à Grace qui se tournait vers la fenêtre, dans un rêve si réel qu'elle se croyait réveillée.
Il avait des pailles à la place des yeux. 4. Peu après 3 heures du matin, à peu près au moment où Fred Peterson sortait d'un pas traînant dans son jardin, derrière la maison, en tenant dans la main gauche un repose-pied provenant du salon et, sur son épaule, la corde pour se pendre, Janet Anderson fut réveillée par l'envie de faire pipi. L'autre moitié du lit était vide. Ayant soulagé sa vessie, elle descendit et trouva Ralph assis dans son fauteuil inclinable papa ours, regardant fixement l'écran éteint de la télé. Elle l'observa avec l'œil aiguisé d'une épouse et remarqua qu'il avait maigri depuis la découverte du corps de Frank Peterson. Elle posa la main sur son épaule délicatement. Sans se retourner, il confia. Bill Samuels a dit une chose qui me tracasse.
Quoi donc?
C'est justement ça le problème. Je ne sais pas. C'est comme avoir un mot sur le bout de la langue.
Ça concerne ce jeune garçon qui a volé la camionnette?
Ralph lui avait raconté sa conversation avec le procureur, au lit, avant d'éteindre la lumière. Non pas parce que cette histoire contenait un élément capital, mais parce qu'un garçon de 12 ans qui va du centre de l'État de New York jusqu'à El Paso en volant une succession de véhicules, c'était quand même incroyable. Peut-être pas aussi incroyable que les histoires réunies dans Destin, mais c'était quand même dingue.
Il devait vraiment détester son beau-père, avait dit Jenny avant l'extinction des feux.
Oui, je crois qu'il y a un rapport avec ce gamin, dit Ralph. Et avec ce morceau de papier retrouvé dans la camionnette. Je m'étais promis d'y revenir, et puis ça s'est perdu dans le chaos. Je ne pense pas t'en avoir parlé. Janet sourit, et ébouriffa les cheveux de son mari qui, à l'image du corps sous le pyjama, semblait plus fin qu'au printemps.
En fait, si. Tu m'as dit que c'était peut-être un bout de menu à emporter.
Je suis quasiment sûr qu'il a été enregistré avec les pièces à conviction.
Ça aussi, tu me l'as dit, mon chéri.
Il se pourrait que je fasse un saut au poste demain, pour jeter un coup d'œil. Ça m'aidera peut-être à mettre le doigt sur ce qui me turlupine.
Très bonne idée.
Le moment est venu de faire autre chose que de broyer du noir.
Tu sais, j'ai relu cette histoire d'Edgar Poe. Le narrateur explique que quand il était à l'école, il faisait plus ou moins la loi. Et puis est arrivé un garçon qui portait le même nom que lui.
Ralph prit la main de sa femme et y déposa un baiser distrait.
« Jusque-là, c'est plutôt crédible, » dit-il.
« William Wilson n'est peut-être pas un nom aussi répandu que Joe Smith, mais ce n'est pas non plus Zbigniew Brzezinski. »
« Exact, mais le narrateur découvre qu'ils ont la même date de naissance et ils portent les mêmes vêtements. Pire encore, ils se ressemblent, les gens les confondent. Ça t'évoque quelque chose ?
Oui.
Plus tard, William Wilson numéro 1 ne cesse de croiser William Wilson numéro 2. Et ces rencontres se terminent toujours mal pour numéro 1, qui s'oriente sur la voie du crime et rejette la faute sur le numéro 2. Tu me suis ?
Étant donné qu'il est 3h15 du matin, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal.
Pour finir, William Wilson numéro 1 frappe William Wilson numéro 2 d'un coup d'épée. Mais quand il se regarde dans un miroir, il découvre qu'il s'est frappé lui-même.
Car il n'y a jamais eu d'autre William Wilson, je parie.
Si, justement, un tas de gens ont vu le second William Wilson. Mais finalement, William Wilson numéro 1 a été victime d'une hallucination et il s'est suicidé, car il ne supportait pas l'existence de ce double, je suppose.
Janet s'attendait à ce que Ralph ricane avec mépris, mais il hocha la tête.
Oui, ça se tient. C'est même très fort au niveau psychologie. Surtout pour un texte du milieu du 19e siècle.
Quelque chose comme ça, oui. À la fac, je suivais un cours intitulé « Le roman gothique américain » et on lisait un tas d'histoires d'Edgar Poe, dont celle-ci. Notre prof disait que les gens commettaient l'erreur de croire que Poe écrivait des contes fantastiques qui parlaient du surnaturel, alors qu'en réalité, il écrivait des histoires réalistes sur la psychopathologie.
Avant les empreintes digitales et l'ADN, souligna Ralph en souriant. Retournons nous coucher. Je crois que je vais réussir à dormir maintenant.
Janet le retint. Je vais te poser une question, mon cher mari. Sans doute parce qu'il est tard et que nous sommes seuls tous les deux. Personne ne t'entendra si tu te moques de moi, mais s'il te plaît, ne ris pas, car ça me rendrait triste.
Je ne me moquerai pas. Ça se pourrait.
Promis. Tu m'as raconté l'histoire de Bill sur ses traces de pas qui s'arrêtent brusquement. Et tu m'as raconté ton histoire d'asticot dans le melon. Mais l'un et l'autre vous parliez par métaphore. De même que l'histoire de Pau est une métaphore du trouble dissociatif, à en croire mon prof de fac. Mais si tu enlèves les métaphores, qu'est-ce qu'il reste?
Je ne sais pas.
L'inexplicable? Alors ma question est très simple. Et si la seule réponse à l'énigme des deux Terry était d'ordre surnaturel?
Ralph ne rit pas. Il n'avait aucune envie de rire. Il était trop tard pour ça, ou trop tôt. Trop quelque chose en tout cas.
Je ne crois pas au surnaturel. Ni aux fantômes, ni aux anges, ni à la nature divine de Jésus-Christ. Je vais à l'église, certes, mais uniquement parce que c'est un endroit calme où je peux être à l'écoute de moi-même. Et parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je devine que c'est pareil en ce qui te concerne. Ou alors, c'est à cause de Derek.
J'aimerais croire en Dieu, dit Janet. Car je refuse de me dire qu'on disparaît du jour au lendemain, même si ça équilibre l'équation. Étant donné qu'on vient des ténèbres, la logique veut qu'on y retourne. En revanche, je crois aux étoiles et à l'univers infini. Le grand là-bas. Ici-bas, je crois qu'il existe d'autres univers dans chaque poignée de sable, car l'infini est une rue à double sens. Je crois qu'il y a dans ma tête des dizaines de pensées alignées en file indienne derrière chaque pensée consciente. Je crois à la conscience et à l'inconscient, même si je ne sais pas ce que c'est. Et je crois en Conan Doyle, qui fait dire à Sherlock Holmes, « Une fois que vous avez éliminé le possible, ce qui reste, aussi improbable que cela puisse paraître, ce doit être la vérité. »
Ce n'est pas le même type qui croyait aux fées, demanda Ralph.
Janet soupira.
Allez, viens te coucher, on va s'offrir un peu de bon temps. Peut-être que ça nous aidera à dormir.
Ralph s'exécuta de bonne grâce. Mais même pendant qu'il faisait l'amour, sauf au moment de l'orgasme où toutes les pensées s'effacèrent, il se surprit à songer à la formule de Conan Doyle. C'était intelligent, logique, mais on pouvait l'adapter. Une fois que vous avez éliminé le naturel, ce qui reste est forcément surnaturel.
Non. Le policier qu'il était, mais aussi l'être humain, ne pouvait croire à une explication qui transgressait les règles du monde naturel.
Frank Peterson avait été tué par une personne réelle, pas par un fantôme sorti d'une bande dessinée.
Alors que restait-il, aussi improbable que cela puisse paraître?
Une seule chose. Frank Peterson avait été assassiné par Terry Maitland, aujourd'hui décédé. 5. Le mercredi soir, la lune de juillet, gonflée et orange, ressemblait à un gigantesque fruit tropical. Mais le jeudi matin, avant l'aube, tandis que Fred Peterson, dans son jardin, grimpait sur l'ottoman qui avait soutenu ses pieds durant tant de matchs du dimanche après-midi, ce n'était plus qu'une pièce de monnaie en argent, ratatinée et froide, très haut dans le ciel. Il passa la corde autour de sa tête et la serra jusqu'à ce que le nœud coulant appuie contre l'angle de sa mâchoire, conformément aux explications fournies par Wikipédia, agrémentées d'une illustration très utile. L'autre extrémité de la corde était attachée à la branche d'un mico-coulier, semblable à celui qui poussait derrière le grillage de Ralph, même si celui-ci était un représentant plus âgé de la flore de Flint City, car il était sorti de terre à peu près au moment où un bombardier américain larguait sa cargaison sur Hiroshima. Sûrement un événement surnaturel aux yeux des Japonais qui y avaient assisté, de suffisamment loin toutefois pour ne pas être pulvérisé. La repose-pied tanga sous lui. Il écouta le chant des grillons et sentit la brise nocturne, fraîche et apaisante après une journée caniculaire et avant une autre qu'il ne verrait pas, sur ses joues luisantes de sueur. Sa décision de tirer un trait sur la lignée des Peterson de Flint City reposait en partie sur l'espoir que Frank, Arlen et Holly n'étaient pas encore trop loin. Peut-être pouvait-il les rattraper. Mais surtout, il y avait la perspective insupportable d'assister ce matin à une double cérémonie funèbre à l'endroit même, le salon funéraire des frères Donnelly, qui accueillerait dans l'après-midi la dépouille de l'homme responsable de leur mort. C'était tout de suite ses forces. Il regarda autour de lui une dernière fois, en se demandant s'il voulait réellement commettre ce geste. La réponse était oui. Alors il repoussa le repousse-pied, s'attendant à entendre le craquement de ses vertèbres cervicales avant de voir le tunnel de lumière s'ouvrir devant lui, le tunnel au bout duquel sa famille l'attendait et lui faisait signe de venir, dans cette nouvelle existence, plus heureuse, où l'on ne violait pas et ne tuait pas les petits garçons innocents. Aucun craquement ne se produisit. Il avait loupé ou ignoré le passage de la notice Wikipédia qui expliquait qu'une certaine hauteur était nécessaire pour briser la nuque d'un homme de 92 kilos. Au lieu de mourir sur le coup, il se mit à suffoquer. Tandis que sa trachée se resserrait et que ses yeux saillaient de leurs orbites, son instinct de survie, assoupi jusqu'alors, se réveilla en déclenchant un tintamarre de sirènes d'alarme et un déluge de signaux lumineux aveuglants. En l'espace de 3 secondes, son corps prit le dessus sur son cerveau et son désir de mourir se transforma en volonté brutale de vivre. Fred porta ses mains à son cou, referma ses doigts autour de la corde et tira de toutes ses forces. La corde se desserra légèrement et il put aspirer un peu d'air, mais le nœud coulant faisait pression sur le côté de sa gorge comme une glande enflée. La grippant d'une main, il chercha à tâtons la branche à laquelle il avait attaché la corde. Ses doigts arrachèrent quelques morceaux d'écorce qui tombèrent dans ses cheveux, mais rien de plus. Ce n'était pas un quinquagénaire très en forme. En guise d'exercice, il se contentait de marcher jusqu'au frigo pour aller chercher une autre bière quand il se régalait devant les matchs des Dallas Cowboys. Mais déjà au lycée, en cours d'éducation physique, il n'avait jamais réussi à faire plus de 5 tractions. Sentant que sa main glissait autour de la corde, il appela son autre main à la rescousse et parvint à la desserrer un peu, le temps d'une demi-inspiration, sans parvenir toutefois à se hisser plus haut. Ses pieds se balançaient à 15 centimètres au-dessus du sol. Il perdit une pantoufle, puis l'autre. Il tenta d'appeler au secours, mais seul un râle sortit de sa bouche. Et qui pouvait bien l'entendre à cette heure-ci? Cette vieille fouineuse de Madame Gibson, la voisine d'à côté? Elle devait dormir sur ses 2 oreilles, son bréviaire à la main, rêvant du père Brixton. Ses doigts glissèrent sur la corde. La branche émit un craquement. Sa respiration s'arrêta. Il sentait battre le sang prisonnier à l'intérieur de sa tête, prêt à faire exploser son cerveau.
Ce n'était pas censé se passer de cette manière.
Il battit des bras pour attraper la corde. Un homme qui se noie et tente d'atteindre la surface du lac dans lequel il est tombé. Des grosses spores noires apparurent devant ses yeux. Elles explosèrent pour former d'extravagants champignons vénéneux. Mais avant qu'ils envahissent tout son champ de vision, il aperçut un homme dans le patio, éclairé par la lune, une main posée dans un geste possessif sur le barbecue avec lequel Fred ne ferait plus jamais griller un steak. Mais peut-être n'était-ce pas un homme. Ses traits étaient grossiers, comme façonnés par un sculpteur aveugle. Et il avait des pailles à la place des yeux. June Gibson était justement la femme qui avait préparé les lasagnes qu'Arlene Peterson avait renversées sur sa tête avant de faire un infarctus. Et elle ne dormait pas. Pas plus qu'elle ne pensait au père Brixton. Elle aussi souffrait. Énormément. 3 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière crise de sciatique. Et elle avait osé espérer en être débarrassée. Mais la douleur était réapparue. Une méchante visiteuse indésirable qui faisait irruption chez vous et s'y installait. Cela avait commencé par une simple raideur derrière le genou gauche après la réunion qui avait suivi l'enterrement chez les Peterson, ses voisins. Mais elle savait déceler les signes et elle avait supplié le docteur Richland de lui prescrire de l'oxycodone, ce qu'il avait fait à contre-cœur. Les pilules n'avaient guère eu d'effet. La douleur courait maintenant sur tout le côté gauche, du bas du dos jusqu'à la cheville, qu'elle enserrait d'un bracelet hérissé d'épines. Une des caractéristiques les plus cruelles de la sciatique, dans son cas du moins, était que la position couchée amplifiait la douleur au lieu de l'atténuer. Alors June restait assise dans son salon, en pyjama et robe de chambre, regardant à la télé une publicité pour un appareil qui vous façonnait des abdos sexy ou jouant au solitaire sur l'iPad que son fils lui avait offert pour la fête des mères. Son dos était mal en point et sa vue faiblissait. Mais elle avait coupé le son du téléachat et son ouïe fonctionnait à merveille. Elle entendit très distinctement un coup de feu provenant de la maison voisine et se leva d'un bond, ignorant l'éclair de douleur qui parcourut toute la partie gauche de son corps.
« Mon Dieu, Fred Pedersen s'est suicidé !»
Appuyée sur sa canne, pliée en deux telle une vieille bique, elle clopina jusqu'à la porte de derrière. De la terrasse couverte, dans la lumière de cette lune argentée impitoyable, elle découvrit Pedersen recroquevillé sur sa pelouse. Ce n'était pas un coup de feu qu'elle avait entendu. Autour de son cou était enroulée une corde qui serpentait jusqu'à une branche brisée. Lâchant sa canne, qui ne servirait qu'à la ralentir, Madame Gibson descendit en crabe les marches de sa terrasse et parcourut au petit trot les 30 mètres qui séparaient les deux jardins, sourde à ses cris de douleur provoqués par son nerf sciatique qui se déchaînait et la lacérait de ses fesses décharnées jusqu'au pied gauche. Elle s'agenouilla près de M. Pedersen, observa son visage enflé et empourpré, la langue pendante et la corde qui mordait dans la chair flasque de son cou. Glissant les doigts sous la corde, elle tira dessus de toutes ses forces, ce qui déclencha une nouvelle salve de souffrance. Accompagnée d'un cri, qu'elle entendit cette fois. Un long hurlement strident, un ululement. Des lumières s'allumèrent dans les maisons d'en face, mais Madame Gibson ne les vit pas. La corde se desserrait enfin. Béni soit Dieu, Jésus, Marie et tous les saints. Elle attendit que M. Pedersen avale de l'air. En vain. Durant la première phase de sa vie professionnelle, Madame Gibson avait été caissière à la Flint City First National. Quand elle avait pris sa retraite, à l'âge obligatoire de 62 ans, elle avait suivi des cours afin de devenir aide ménagère qualifiée, une activité qu'elle avait exercée afin d'améliorer sa retraite jusqu'à 74 ans. Un de ces cours concernait inévitablement les techniques de réanimation. Agenouillée maintenant à côté du corps massif de M. Pedersen, elle inclina sa tête en arrière, lui pinça les narines, lui ouvrit la bouche en grand et plaqua ses lèvres sur les siennes. Elle en était à sa 10e respiration et commençait à avoir des vertiges lorsque M. Jagger, le voisin d'en face, la rejoignit et tapota son épaule osseuse.
« Il est mort ?»«
Je fais tout pour l'éviter. »
Madame Gibson palpa les poches de sa robe de chambre, sentit le rectangle de son téléphone à travers le tissu, le sortit et le lança à l'aveuglette derrière elle.
« Appelez les secours, et si je m'évanouis, vous devrez me relayer. »
Mais elle ne s'évanouit pas. À la 15e respiration, alors qu'elle était sur le point de tourner de l'œil, Fred Pedersen avala une grande bouffée d'air, gorgée de salive, puis une deuxième. Madame Gibson attendit qu'il ouvre les yeux, et comme cela n'arrivait pas, elle souleva une paupière. Dessous, elle ne vit que le blanc de l'œil, tout rouge, à cause des vaisseaux sanguins éclatés. Fred Pedersen prit une 3e inspiration, puis s'arrêta. Madame Gibson entreprit alors de lui prodiguer un massage cardiaque, tant bien que mal. Elle ignorait si c'était utile, mais elle se disait que ça ne pouvait pas faire de mal. Curieusement, la douleur dans son dos et sa jambe avait diminué. Était-il possible de chasser la sciatique par un traitement de choc? Non, évidemment. Idée ridicule. C'était l'adrénaline. Et une fois que ses réserves seraient épuisées, la douleur réapparaîtrait, pire que jamais. Une sirène flotta sur la pénombre du petit matin. Madame Gibson se remit à souffler dans la gorge de Fred Pedersen, son contact le plus intime avec un homme depuis le décès de son mari en 2004, s'arrêtant chaque fois qu'elle se sentait au bord de l'évanouissement. Monsieur Jagger ne proposa pas de la remplacer et elle ne le lui demanda pas. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, c'était entre Pedersen et elle. Par moments, quand elle interrompait le bouche-à-bouche, il prenait une grande inspiration baveuse. Pas toujours. Elle remarqua à peine les pulsations de la lumière rouge de l'ambulance quand elle balaya les deux jardins adjacents, éclairant par intermittence le morceau de branche brisée du micocoulier auquel M. Pedersen avait tenté de se pendre. Un des ambulanciers l'aida à se relever et elle parvint à rester debout presque sans ressentir la moindre douleur. Incroyable. Même si ce miracle était temporaire, elle l'acceptait avec reconnaissance.
« On prend le relais, madame. Vous avez fait un sacré travail. »«
Exact, » confirma M. Jagger. « Vous l'avez sauvé, June. Vous avez sauvé la vie de ce pauvre gars. »
Essuyant la salive sur son menton, un mélange de la sienne et de celle de Peterson, Madame Gibson répondit:
« Peut-être. Et peut-être que je n'aurais pas dû. »